voulais savoir que vous pouvez raisonner des mots comme justice sociale ou justice environnementale pour vous.
Comme justesse.
Oh.
Bonne punchline. Tu devrais faire des chansons.
Ben en fait, c'est une évidence que ouais, justesse, c'est carrément très bien choisi. Justice sociale, justice environnementale, c'est la même chose en fait. Ils essaient de nous faire croire que on peut détacher l'être humain de la nature, qu'on peut détacher le social de l'environnement. C'est la même lutte. C'est une lutte des classes. C'est une lutte éthique. C'est une lutte qui dépasse les territoires européens, le territoire français. C'est quelque chose qui concerne toutes les strates de ce système. Donc du coup, ça va ensemble et c'est évident. Que quand on veut faire justice environnementale, on fait aussi avec justice sociale et vice-versa. Enfin, pour moi, ça me paraît logique.
C'est un système non humain qui sert uniquement la marchandise et donc qui est en train de tuer toute la vie au profit uniquement de la marchandise. Mmh. C'est complètement aberrant.
Au profit de l'argent. C'est aussi pour ça que dans nos luttes, on est aussi en train de dénoncer en fait, le génocide qui a lieu à Gaza en ce moment. Enfin, la violence que subit Palestine, c'est aussi nos combats. Toutes les luttes sociales en fait, qui ont lieu partout, les insurrections de peuples ou les peuples qui sont écrasés, tout ça, c'est à cause du capitalisme que ces populations elles, se font écraser, que la nature se fait écraser. Le capitalisme, c'est son but, c'est d'écraser pour pouvoir tirer le plus de ressources possible pour enrichir une minorité de la population au détriment des 40 000 enfants qui travaillent dans les mines au Congo. C'est une lutte qui relie tout ensemble, la lutte contre le capitalisme. C'est toutes les oppressions qui sont ensemble. Et donc, c'est juste, ça fait juste sens, en fait.
Oui, carrément, c'est une question de pouvoir, de dominant-dominante privilégié. Bien compris, il y a plusieurs manières d'exister, de toute façon. Donc, à la voie juridique, après, de temporalité, il faut gagner du temps. Donc, pourquoi pas des recours en justice. Ça a été dit un peu pudiquement, il y a la possibilité de désarmer les engins de chantier. Là, je le dis comme ça, là, c'est la manière imagée, quoi. Hein. Toi, t'as parlé de sabotage, bon, c'est vrai que là, au moins, on comprend un peu mieux, quoi. C'est une possibilité, en tout cas.
Macadam, ça se mange pas. Il faut le dire combien de fois. 12 ronds-points, pourquoi faire. Je ne veux pas dire pour les serres. Les machines d'Atosca. Je te jure, on se couvre de caca. L'autoroute de la misère. Mais nos combats anti-autoritaires.
Insecte vise la lune, mais parfois ça tombe sur un keuf ou un bourgeois. ACAB, j'en peux plus, je veux courir dans la salle tout doudou. Désarmer les tractopelles, désarmer les tractopelles, désarmer les tractopelles. La culture des légumes contre la dictature du bitume. NGE, tes voitures vont exploser à la figure. Comme un cheval, je te sabote. Dans ce pays, on entend trop le bruit des bottes. Liberté d'expression, le GIEC a trouvé la combustion. Désarmer les tractopelles, désarmer les tractopelles, désarmer les tractopelles, désarmer les tractopelles.
Woo!
Voilà, moi j'ai retenu Atos Kaka.
Atos Kaka.
Rime riche. Il y a aussi alors, des grèves de la faim, de la soif, comme possibilité de revendiquer, de contestation. Il y a eu surtout concernant cette lutte avec les écureuils qui ont participé aussi à retarder énormément. Ça, on est où d'ailleurs ? Il y a toujours des écureuils présents ?
Bah justement, en fait, là, à l'heure où on parle, l'actu un peu de nos zones, c'est que depuis le 28 avril, on est légalement expulsable par les forces de l'ordre sur une de nos zones, donc la Calarbre. Du coup, il y a un certain nombre d'individus qui se préparent potentiellement à devoir monter à tout instant dans les arbres pour les occuper. Des personnes qui sont auto-formées ou formées avec l'aide d'autres personnes à pouvoir grimper et occuper des arbres. Parce que on a vu avec la CREMSAT que c'était un moyen, grâce aux arbres qui ont été occupés et qui sont restés debout malgré celles qui sont tombées, c'est quand même un moyen de résistance qui a porté ses fruits. Et donc on ne fait que continuer en fait, à faire de la résistance non violente en occupant ces arbres, quoi, tout simplement, et ces territoires.
Depuis hier matin, en fait, un nouveau site a été pris. Vous voyez un peu la forêt que c'est. C'est un bois qui est magnifique. Donc on est 5 écureuils sur ce site. Vous voyez, la hauteur, on est à peu près 20 mètres de haut. On a rencontré le propriétaire du terrain qui a déjà porté plainte contre Atosca et qui doit passer en jugement le 6 décembre. Et on a l'autorisation du propriétaire pour occuper les lieux d'ici là.
Là, on parle de territoire, donc la Calabre, Crème Arbre, le Verger.
Qui a déjà été exproprié, en fait, qui appartient à Atosca aujourd'hui, mais les propriétaires sont encore sous bail et du coup sont protégés, en fait, ils sont protégés par leur bail de location. Et on est autorisé à camper sur place.
Dédicace à la famille qui vit là-bas, on les aime fort.
Ce que je veux dire, parce que parfois, c'est pas exclusivement des squats, quoi. Il y a aussi des terrains prêtés par les locaux, parce qu'il faut dire aussi, c'est que le soutien avec les luttes locales et donc les personnes, paysans, paysannes, agriculteurs, agricultrices, c'est super important.
C'est vrai qu'on a tendance à... Enfin, les médias ont tendance à isoler la ZAD comme quelque chose de violent, machin, ou peu importe. Et en fait, ce qui est pas forcément mis en avant, c'est aussi qu'on est beaucoup en lien avec tout plein de collectifs locaux, des paysans. Il y a plein de... Au sein de la ZAD, il y a plein de paysans qui sont en études de paysannerie et qui ont envie de mettre les mains à la terre, qui travaillent la terre. On est vachement en soutien, en fait, avec les paysans locaux. On leur donne des coups de main très régulièrement, une sorte de collaboration avec eux. Voilà, il y a une entraide qui se fait.
Comme ça, on peut manger en sortant du rapport marchand, vendre sa force de travail en échange d'argent qu'on doit ensuite convertir en nourriture frelatée dans du plastique.
Mais ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il y a quand même deux usines à bitume qui sont prévues d'être construites et que notamment, il y a un paysan qui a été vachement solidaire de la lutte, logistiquement parlant et compagnie, qui, lui, il s'en va de là où il a habité depuis, plus de 20 ans, je pense 30 ans. Enfin, le projet était peut-être même pas encore conçu, qu'il habitait déjà là, avec sa mère, et que lui, il va partir parce que l'usine à bitume, elle est juste... il pourra plus jamais cultiver ses terres, en fait. Une fois que l'usine, elle sera construite, ce sera des années de gouttelettes de bitume répandues dans le moindre écoulement d'eau, dans l'air... Il y a plein de paysans qui sont complètement opposés à ce projet, quoi. Il y a des collectifs, l'Auragais sans bitume, des villages entiers où tu rentres dedans, il y a que des affiches apposées aux portes, aux fenêtres des maisons qui parlent de ça, quoi. Les gens sont dégoûtés, en fait, de comment est-ce que ça leur est imposé.
On n'a pas été au courant, en fait. On découvre ce truc, ça arrive dans un an, ça va changer nos vies radicalement.
La 69 ne finit pas de faire parler d'elle. Aujourd'hui, on s'intéresse au sujet des usines à bitume, rencontre avec le collectif L'Auragais sans bitume.
On a découvert un peu avant cet été que dans le cadre de la construction de la 69, il allait y avoir la mise en place de deux usines d'enrobés à chaud. Donc une à Villeneuve-les-Lavaur et une à Puy-Laurent. Et en fait, en cherchant un peu qu'est-ce que c'était que ces usines d'enrobés, qu'est-ce que ça avait comme conséquence, en rencontrant des gens qui avaient déjà vécu à côté de ce genre d'usine, notamment à Gragnac, à Montredon-la-Bessonnier, on s'est rendu compte que ça avait des impacts énormes, que ce soit vraiment sur le cadre de vie, sur la santé, sur la pollution des sols, de l'eau.
Le premier objectif du collectif, c'était surtout d'informer la population. On s'est dit qu'on allait faire des réunions d'information dans les villages pour informer les gens localement.
Ces deux usines vont produire 500 000 tonnes de bitume. La fabrication du bitume pour l'autoroute, c'est vraiment la dernière année. C'est fin d'année 2024 pour celle du Puy-Laurent et début d'année 2025. Pour celle de Villeneuve, mais en fait on a très peu de garanties sur la qualité sanitaire et les impacts que peut avoir ce type d'usine. Ils disent qu'il y a essentiellement de la vapeur d'eau. Voilà, tout le jeu est sur ce essentiellement. Nous on n'a rien inventé, on a lu leur étude d'impact, donc qui fait quand même plusieurs milliers de pages, et il y a écrit en fait tout ce qui va être rejeté. Alors ils vont être dans les normes, hein, mais dedans il y a quand même donc des COV, les composés organiques volatiles, beaucoup de poussière, et il va y avoir un certain nombre de substances cancérigènes, mutagènes, dont des molécules qui sont des polluants éternels.
On avait des odeurs qui étaient complètement irrespirables, des personnes qui se sont levées en ayant une sensation d'asphyxie totale en fait en pleine nuit. Enfin, on a eu des particules de... Alors, on s'est dit que c'était du bitume, mais on n'a pas pu les faire analyser, mais on a eu des particules noires sur nos mobiliers de jardin, des taches d'huile dans les piscines, des taches sur les voitures qui ont été repérées les soirs de production.
Les risques de pollution de l'air et des sols font craindre des impacts sur l'agriculture.
On se rend compte que c'est des pollutions éternelles et que clairement ça vient s'infiltrer dans nos sols, s'infiltrer dans nos voies respiratoires. On est face à des industriels où clairement on ne peut pas avoir de dialogue avec eux. Et finalement, notre vie, elle n'a pas de valeur comparée au profit qui est réalisé par des industriels qui se chiffrent en dizaines de milliers, voire de millions ou de milliards, je n'en sais rien. On est sacrifié au profit des plus hauts.
C'est assez dingue en fait à quel point des gens se font tomber dessus parce qu'on prétend que voilà, oui, vous avez mis des feux anti-brouillard, par exemple. Enfin, il y a une surveillance de la zone, des patrouilles, des pelotons, le PSIG est là tous les jours. Enfin, il y a une surprésence policière qui fait que, ils peuvent se permettre de contrôler les gens à tout va et de mettre des gens en prison ou avec des peines très très lourdes, alors qu'il n'y a aucune preuve qu'elles n'ont rien fait, qu'elles étaient juste sur place pour dissuader les gens aussi de venir. En fait, il y a des vraies techniques pour empêcher le mouvement en fait de grossir, quoi.
J'ai l'impression d'ailleurs aujourd'hui à Castres, il y a une quinzaine de personnes qui ont été interpellées, qui font partie des différents collectifs qui gravitent autour de la lutte à 69, notamment la Voix Libre, et qui sont placées en garde à vue. Donc pensez pour eux et elles. Enfin, il y a vraiment une répression énormissime, et donc aujourd'hui aussi, si vous êtes sur Castres, allez-y en soutien.
19h, place Fier Pabre.
Un des lobbies.
Non, on l'appelle l'autoroute Pierre Fabre.
L'autoroute Pierre Fabre, oui, voilà. Donc, industrie pharmaceutique à boycotter.
Il y en a plein d'autres à boycotter. Il faudrait boycotter ce système entier. Démissionner tous.
Venez tous à la salle.
Déjà, Starbucks, Carrefour, Puma. On parle d'entreprises pharmaceutiques, mais ça, c'est Jaffa Aden. Voilà, c'est que des entreprises qui sont impliquées dans le soutien à la colonisation Israël et aussi simplement l'installation dans les terres occupées pour se faire plein de thunes. Mmh. Et voilà, on parle de produits pharmaceutiques. Teva, dès qu'il y a écrit Teva sur un produit, un médicament, ça veut dire qu'en fait, c'est une entreprise qui soutient activement la colonisation israélienne à qui on est en train de donner des thunes. Donc on a le droit aussi de dire ben non, en fait, on veut pas du Teva, quoi.
Teva, tu t'en vas.
Teva, tu t'en vas.
Mon mandat est un mandat qui bénéficie d'une convention juridiquement contraignante. Ça veut dire que l'État a l'obligation d'écouter les recommandations et de les mettre en œuvre.
Bonjour. Bonjour. Madame le référent. Demandez ceux qui veulent parlementer et ceux qui veulent donner des livres. Oui, se mettre là. Le reste, par contre, recule.
Simplement, nous on est là avec des vivres, sachant que légalement, nous on doit aller les ravitailler. Je veux dire, vous avez suivi comme nous, il y a le rapporteur de l'ONU, etc., qui a donné des recommandations qui ont quand même un pouvoir, vous devez les respecter, ces recommandations. Je comprends que vous êtes dans une situation compliquée, mais nous aussi on est dans une situation compliquée, on doit porter assistance à ces personnes-là. Donc on va aller les ravitailler, ce qui serait bien, c'est de pouvoir... y aller à quelques-uns en bonne intelligence, vous pouvez regarder ce qu'il y a dans les sacs, je veux dire, il n'y a aucun souci, c'est simplement les ravitailler, donner à boire et à manger à des personnes qui en sont privées depuis 15 jours. Je veux dire, je pense qu'humainement, on est d'accord. je comprends maintenant, ouais. Mes ordres sont, vous ne passez pas.
Oui, mais la loi, il y a des lois au-dessus de vos ordres. Je suis désolé là de le dire. Il y a des lois au-dessus de vos ordres, donc on va avancer et on va aller les ravitailler.
Et on parlait des images justement, et par rapport au fait de dialoguer ou pas, il y a pas mal d'images qui circulent, moi, à chaque fois, qui me laissent super perplexe. Dans le cas d'opposition frontale avec la police, il y a toujours une espèce de dialogue qui s'engage où on essaie de convaincre le fonctionnaire assermenté. Je ne sais pas pourquoi on essaye de lui faire entendre raison, quoi, lui en tant qu'individu. Alors, il obéit à des ordres en fait, lui, il n'a pas de cerveau en fait, ou il n'y a pas d'intelligence émotionnelle.
C'est de manière tout à fait... On n'est pas dans la confrontation, on a proposé une délégation, ils le refusent. On va avancer de manière tout à fait pacifique, puisqu'on a le devoir d'aller donner à manger et à boire à des personnes qui depuis 15 jours en sont privées. Ils sont en train de détruire tout ce qu'ils ont dans les arbres, donc on va avancer. Et puis maintenant, l'histoire décidera de ce que vous faites, vous. C'est des vivres, j'ai pas d'armes, c'est à manger et à boire.
Ah non, c'est pas
j'ai pas d'armes, c'est à manger et à boire pour des gens qui en ont besoin. J'ai pas d'armes.
Ben, en fait, oui, c'est ça. C'est plus qu'il n'y a pas d'intelligence émotionnelle. Ces gens ont un cerveau. Ces gens sont capables de réfléchir. C'est juste que ces gens sont en mode... Ils ont choisi un camp, en fait. Ils ont choisi de vivre dans le confort d'une paix, d'un hôtel quand ils sont en déplacement, de pouvoir aussi décharger émotionnellement sur des individus quand on leur en donne l'ordre. Donc ils ont choisi la violence, en fait, finalement. Donc raisonner avec des personnes comme ça, pour avoir déjà essayé de le faire, c'est très compliqué. Il leur faudrait à tous, mais à beaucoup de gens d'ailleurs, une bonne séance de psychothérapie. Mais il y a aussi le fait que leurs supérieurs les forcent à ne pas communiquer entre elles, à leur interdisent parfois de discuter avec nous. Enfin, il y a une vraie volonté aussi d'isoler les individus qui font partie des forces de l'ordre pour qu'ils puissent pas et qu'elles ne puissent pas se remettre en question, qu'elles ne puissent pas choisir en fait, enfin prendre du recul et peut-être changer d'avis. Moi, je suis pas d'accord pour dire que les flics n'ont pas de cerveau, bon, à cam nonobstant, mais justement, les justifier en disant qu'ils ont pas de cerveau, c'est les rendre débiles, alors qu'en fait, c'est pas des débiles, c'est juste des humains qui ont fait un choix, et qui font un choix conscient, et qui est extrêmement violent, en fait.
Okay. Allez, vous reculez, là.
Vous tapez des paysans, là.
Il t'agresse pas, nom de Dieu!
Il n'y
a pas de danger! T'es pas en danger, nom de Dieu!
Eh oui! Allez, on recule!
T'es pas en danger!
Ouais, ils ont pas de cerveau dans le sens où réfléchir, c'est déjà désobéir.
C'est clair.
Donc ils ont pas le droit d'avoir un cerveau, mais c'est sûr qu'ils ont un conditionnement où... On leur dit, là, vous avez affaire à des individus ultra armés, ultra dangereux. Vous risquez limite votre vie à tout instant, quoi. Ils sont hyper drillés dans un truc où ils sont en angoisse, en fait, à plein de moments. Où, soit, mais bien sûr, il y en a plein qui sont aussi là parce qu'ils ont envie de se défouler physiquement et qu'ils ils sont payés pour être le bras armé de l'État. Donc, faut pas non plus... se cacher derrière ça. Je pense que très vite, en étant flic, tu comprends que tu sers pas les bonnes intentions que tu cherchais à défendre lorsque tu t'es engagé dans la police, quoi. Je pense que très vite, tu le comprends.
Il a violenté personne.
Franchement.
Vous êtes hors la loi. 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 Vous êtes.
Et surtout quand tu fais du harcèlement, des menaces de viol à des personnes qui sont en train d'occuper les arbres, quand tu prends des photos des personnes qui sont en train de prendre leur toilette dans les arbres, enfin, il y a un moment où aussi il y a des personnes qui sont vraiment vraiment des dangers publics et qui sont dans les forces de l'ordre. Et d'ailleurs qui agissent en toute impunité.
Tous les jours font ça et s'habituent à trouver ça normal, quoi. Et on en vient à des exactions militaires où il y a des véritables massacres. Et ben ça, c'est aussi porté par la violence légale, en fait.
La plupart des gens croient qu'ils ont besoin, en fait, de travailler pour gagner de l'argent pour pouvoir manger. En fait, c'est ce mouvement-là qui est en train de détruire toute la nourriture disponible. Et les flics, ils sont payés en fait pour la violence. Comme il y a d'autres gens qui sont payés pour faire de la merde à longueur de journée, qui sont pas forcément flics, mais qui ont une vie aussi merdique que une vie de flic. Et il faut sortir de ça, quoi. Sinon, on va tous crever très vite.
Attention ! Ouais, génial !
Y aurait l'espoir que ce soit pas juste des gros vicelards finis à vie pour des générations maudites, quoi. Enfin, que peut-être ils pourraient démissionner aussi.
Leurs chefs leur font croire qu'on est des gros vicelards. Je me souviens d'un gars qui croyait qu'on avait dévasté nous-mêmes le terrain de la crème arbre. Alors qu'il a été défoncé à coups de pelleteuse, évidemment. Et il a cru que c'était les abysses qui avaient fait ça.
Oui, les flics, faut quand même rappeler que quand ils rentrent dans une cabane, ils commencent par pisser sur le matelas, quoi. Je veux dire, au bout d'un temps, le conditionnement est tel qu'ils deviennent complètement dégénérés. Ça devient des vrais enfants, quoi. Ils gèrent plus rien. Je veux dire, on leur offre des pizzas le midi avec les sous des contribuables. Voilà, être flic, c'est être gendarme, c'est être content parce que tu vas te faire payer des pizzas après avoir tenu... un territoire à 10 mètres chacun écarté pendant une journée entière, c'est bon, t'as droit à ta pizza, tu peux choisir le goût de ta pizza, mais enfin, tu réfléchis pas à grand chose, quoi. Du coup, tu deviens complètement de plus en plus abruti, en fait.
Il y a un truc de rêve d'enfant peut-être, de jouer avec des explosifs, de balancer des GM2L sur des personnes qui essaient juste de ravitailler des gens dans les arbres, de lancer des lacrymogènes. Enfin, je pense qu'il y a un peu de sadisme aussi qui naît en fait en ces personnes pour banaliser la violence à laquelle elles sont confrontées en permanence et qui elles appliquent en permanence. Ça devient la norme, ça devient naturel pour elles et ça devient même un plaisir, je pense, à certains moments. Enfin, vu les comportements toxiques et violents de certaines personnes des forces de l'ordre, c'est difficile de voir ça autrement que comme du sadisme, je trouve.
C'est des comportements qui sont encouragés sans doute par la hiérarchie. Vu tout ce qu'on a vu pendant ces trois mois, c'est certainement la hiérarchie qui approuve ces comportements brutalistes, quoi.
Arrêtez la voiture, ma bécure !
Les forces de l'ordre qui se retrouvent pendant 40 jours figées, tel un poteau, on leur demande pas de réfléchir, ils sont juste, ils bougent pas, et je pense que leurs journées sont animées par une non-stimulation cérébrale, et je pense qu'au bout d'un moment, leur cerveau doit complètement s'étioler, reste comme ça pendant 40 jours, à ne pas bouger, à juste attendre que quelque chose se passe. Je pense qu'il y a rien de plus débilisant qu'un métier comme ça. Et, enfin...
Il est 13h12
à 4.